L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
La loi d'urgence agricole a été votée à l'Assemblée nationale mardi 2 juin. Un projet de loi proposé par le gouvernement, d'abord passé par 2 semaines d'examen. Le centre et la droite, avec le soutien du Rassemblement national, ont fait passer la loi, malgré l'avis unanimement défavorable de la gauche. Le texte est censé apporter des solutions concrètes aux problématiques majeures des agriculteurs. Alors qu'en est-il? Que contient-il? Puisque la FNSEA, premier syndicat agricole, le trouve faible, bien qu'il le soutienne, tandis que la Confédération paysanne et plusieurs associations environnementales dénoncent un texte qui privilégierait les lobbies de l'agro-industrie au détriment de la majorité des agriculteurs. Éric Martineau, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes député MoDem de la 3e circonscription de la Sarthe au sein du groupe Les Démocrates à l'Assemblée. Vous avez voté pour ce texte. Alors tout d'abord, pourquoi ce vote favorable, tout simplement?
Parce que alors si je reviens sur l'introduction que vous en avez faite, c'est un peu caricatural, mais je pense clairement que ce texte a
j'ai donné les positions
réellement. Oui, non, mais tout à fait. Mais pour dire que, je sais pas, il y a eu certaines, par exemple, dispositions du texte qui ont été votées. Je pense à l'article 2 sur les importations, qui était, il y a eu un amendement, de LFI qui a été voté par le RN. Et,
on va y revenir sur les détails. D'abord, je voudrais juste savoir votre position à vous globalement sur ce texte-là. Pourquoi vous avez voté pour?
Eh bien, globalement, sur le texte, il ne va pas répondre à toutes les préoccupations, c'est certain, de tous les agriculteurs. Mais je l'ai déjà dit, il n'y aura pas une réponse unique à tous les problèmes de l'agriculture, car en fonction de votre système de production, vos filières et vos modes de commercialisation, vous n'aurez pas une réponse unique, c'est certain. Il n'y a rien de commun entre un petit maraîcher en bio et un céréalier, si je prends les extrêmes, par exemple dans la Beauce, ou un producteur de vin en Occitanie, par exemple. Donc vous n'aurez pas une réponse unique. Par contre, ce texte apporte des réponses à plusieurs thématiques, que ce soit sur les projets d'eau, le stockage de l'eau et le partage de l'eau, le foncier, mais aussi le loup, parce que nous en Sarthe, on n'est pas impacté, mais on a quand même plein de régions en France qui ont de gros dégâts. Voilà.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont abordées dans ce texte. Les questions de la gestion de l'eau, des projets d'installation hydraulique et gestion des zones humides, les conditions d'agrandissement des bâtiments d'élevage, la lutte contre la concurrence déloyale étrangère, les cantines scolaires et même le loup, effectivement. On a plutôt l'impression quand même d'un projet fourre-tout que d'une vraie direction claire avec ce texte, Éric Martineau.
La difficulté, c'est qu'il ne peut pas, c'est ce que je vous dis, il ne peut pas y avoir une seule et unique réponse. Ça, c'est pas possible. En plus, faut pas oublier qu'il y a déjà eu des textes auparavant. L'année dernière, il y a eu la loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. L'année d'avant, en 2024, de 23-24, vous aviez la loi d'orientation agricole. C'est à chaque fois pas les mêmes sujets, mais c'est comme si, je sais pas, on disait on fait une loi pour l'entreprise. Mais l'entreprise, il y a plein d'entreprises, il y a plein et vous n'avez pas une réponse unique. Alors, je sais, les détracteurs de cette loi vont vous dire, oui, mais ça n'apporte rien. Et pourtant, moi, je suis convaincu qu'il y a des passages dans ce texte qui vont apporter quelque chose, y compris, et c'est là où ça devient plus marrant, même si c'est pas, moi, ça me fait pas rire, c'est que ceux qui s'opposent à ce texte, par exemple, ou qui ne l'ont pas voté, vont venir après me demander de l'aide parce qu'ils vont pas avoir accès à l'eau.
Dans le communiqué que vous avez publié après le vote de la loi, vous insistez sur votre refus d'opposer environnement et agriculture. Pourtant, vous parliez des détracteurs. C'est vrai que les associations comme France Nature Environnement ou Greenpeace relèvent de nombreux reculs sur les normes environnementales dans cette loi.
J'aimerais qu'ils me disent lesquelles.
Je peux vous donner des exemples. Il y a faciliter la construction de bassines de rétention d'eau, autorisation de tir de défense.
Non, c'est pas des bassines. On ne parle pas de bassines dans le texte. Ça, c'est ce qu'ils disent. Mais dans le texte, ils ne parlent pas de ça. Il parle du stockage de l'eau, et le stockage de l'eau, nous, ce qu'on a fait passer, est-ce qu'un étang de moins de 1 hectare, c'est une bassine? Je ne sais pas. Moi, j'aimerais avoir un échange avec eux.
Alors, il n'est pas forcément question de méga-bassine, mais de bassine, en l'occurrence, il en est question dans le texte.
Il est question du stockage et de retenue d'eau, de faciliter le stockage de l'eau. Et si vous pouvez me citer une réserve d'eau qui a été construite dans la Sarthe depuis ces 20 dernières années, je suis preneur. Parce qu'il faut savoir qu'en Sarthe, comme en France, pour pouvoir monter un projet, En clair, vous avez toujours des barrières qui font que vous ne pouvez pas y arriver.
Oui, enfin, ce texte, il porte pas que sur la Sarthe, il porte sur tout le territoire.
Donc, non, toute la France. Mais oui, complètement. Mm. Mais si vous pouvez me citer des exemples, moi, je suis preneur. Parce que, vous voyez, suite à la loi de l'année dernière, donc visant à lever les contraintes en agriculture, la préfecture a demandé à faire un état de tous les projets d'irrigation en Sarthe et de stockage de l'eau. À force d'avoir étapé sur les agriculteurs et les démotiver, il n'y a plus aucun projet. Enfin, donc on peut être contre les projets, faudrait-il encore qu'il y en ait.
Pour rester quand même sur cette question des bassines, il en est quand même question, ne serait-ce que sur la consultation citoyenne par exemple. Les consultations publiques pour les projets de bassines ne seront plus obligatoires. Autre élément important...
Si. Ce qui n'est plus obligatoire, c'est la réunion publique.
Oui.
Mais la consultation en mairie, elle est obligatoire. Elle est obligatoire. Oui, dans le texte, et c'est marqué.
Hein. Oui, consultation publique entre citoyens. Les consultations
entre
publiques.
Citoyens, ça veut dire que vous aurez une permanence dans la mairie du local, là où il y aura un projet d'irrigation, de stockage de l'eau, et tous les citoyens pourront venir rencontrer et les porteurs de projet et la commission d'enquête. Donc non, il n'y aura pas de réunion publique, ça c'est vrai, ça a été simplifié à cet égard, mais c'est uniquement ça. Le reste, toute la procédure continue.
Il y a quand même d'autres aspects. Par exemple, le préfet pourra prolonger pendant 2 ans des autorisations de prélèvement jugées illégales au tribunal.
En cas d'interdiction, oui.
Oui, en cas d'interdiction. Mais du coup, pendant 2 ans, ces prélèvements pourront toujours avoir lieu, même s'ils ont été interdits.
Enfin, vous savez dans quel but ? Vous savez dans quel but ?
Dites-nous.
Parce qu'il y a un but hein, quand même. Pourquoi ? C'est qu'en fin de compte, si vous avez une exploitation qui irriguait et qui du jour au lendemain se retrouve avec interdiction d'irrigation, et vous voyez, nous on a le cas par exemple dans la vallée du Loir avec des problèmes de bactéries, il faut que l'entreprise qui, elle, irriguait, il faut qu'on, on peut dire on interdit du jour au lendemain, et dans ce cas-là, on fait couler l'entreprise. Mais peut-être qu'il faut lui donner un laps de temps à cette entreprise pour qu'elle puisse trouver une voie de sortie et non pas mettre la clé sous la porte.
Plus seulement en ce qui concerne l'eau, Eric Martineau, mais de manière générale, les recours contre des projets agricoles jugés abusifs donneront lieu à un dédommagement versé à l'agriculteur. Est-ce que cette histoire de dédommagement pour recours abusif, ça ressemble à une forme de procédure bâillon faite pour décourager les associations, notamment, à entreprendre des actions en justice ?
Alors oui et non, ça dépend comment vous le voyez. Si vous le voyez d'un point de vue agriculteur, est-ce que vous trouvez normal que, par exemple, pour monter un projet en France, il faut environ 5 à 6 ans, d'accord, je pense à tout ce qui est les problèmes d'élevage, parce que c'est là-dessus qu'on va avoir des recours, essentiellement, ou sur l'eau. En Allemagne, il faudra 6 mois. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ? Moi, je considère que non. Si, admettons, vous voyez, on a eu le témoignage, en hémicycle d'une agricultrice sartoise que je connais très bien, qui va bientôt prendre sa retraite, enfin, pas encore tout de suite, mais là, pour pouvoir installer ses enfants, donc dans 5 ou 6 ans, elle est obligée de commencer les démarches aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous ?
Ouais,
imaginez-vous, là, au niveau de la radio, là, si, admettons, moi, je vous dis, parce que vous allez faut changer de l'antenne ou je sais pas quoi, vous allez avoir pendant 5 à 6 ans des démarches administratives à faire pour changer votre antenne.
Vous expliquez que c'est une histoire de point de vue, mais du coup ce qu'on comprend c'est que cette mesure, elle témoigne d'un certain rapport de force finalement entre les associations environnementales et les agriculteurs, c'est ça qu'on doit comprendre.
Mais ce rapport de force aujourd'hui on l'a déjà, puisque dans le coup vous avez de moins en moins d'agriculteurs qui s'installent et deux qui montent des projets.
Donc il y a quand même
il faut trouver une solution.
Pendant l'examen par l'Assemblée nationale, le projet de loi a connu plusieurs modifications, notamment quelques victoires de la France Insoumise via des amendements soutenus par le Rassemblement National. C'est eux qui ont permis l'instauration de prix planchers dans les négociations commerciales entre agriculteurs et industriels, une mesure à laquelle le gouvernement n'est pas favorable. Qu'en pensez-vous, Eric Martineau ? On rappelle que vous êtes vous-même agriculteur. Les prix planchers, c'est une bonne solution pour un meilleur revenu des agriculteurs ou pas forcément ?
Moi, je pense que c'est surtout démagogique, si vous me demandez. Donc oui, sur le papier, c'est une bonne solution. Très concrètement, j'aimerais qu'on me dise comment on fait. Voilà. Donc, parce que si vous prenez un exemple, vous l'avez dit, je suis aussi moi-même agriculteur. Quel prix plancher ? Dans ce cas-là, on met sur mes pommes lorsque je les vends. Je sais pas. Moi, très concrètement, il faut qu'on me dise comment ça va marcher.
La solution proposée par le gouvernement, c'était plutôt des tunnels de prix. Ça vous semblait plus viable ?
Eh bien, oui, parce que c'est déjà ce qui est plus ou moins en pratique selon les filières. Ce qu'on appelle un tunnel de prix, vous voyez, moi j'étais aussi président de mon groupement de producteurs. On doit définir un prix minimum basé et sur les coûts de production, mais aussi en fonction de la concurrence interne avec le marché et les importations, parce que vous avez aussi, on peut dire que, j'ai n'importe quoi, mais imaginez si moi en pomme bio, si on disait, faut pas qu'on vende un kilo de pomme en dessous de 1,50€, ok. Bon, ça, c'est le prix plancher, là, ce qui a été voté. Très bien. Seulement, l'acheteur, il n'est pas obligé de vous acheter des pommes à 1,50€ françaises. Il va aller acheter des pommes bio italiennes à 80 centimes, 1€, ou de la pomme polonaise à 60 centimes. Qu'est-ce qui va faire que ça va être mieux pour les agriculteurs ? Moi, personnellement, ça, j'y crois pas.
Bon, en fin de compte, oui, allez-y, je vous laisse.
Par contre, le tunnel de prix qui disait, on prend ce qui se met déjà en place, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des prix mini, on a des prix objectifs, c'est-à-dire les prix vers lesquels on aimerait vendre pour dégager un revenu, et on a un prix moyen. En clair, on a trois prix. C'est ça, cette histoire de tunnel de prix. L'expérimentation, elle marche plutôt bien sur les bovins, il faudrait l'étendre à d'autres filières. Bon, c'est pas ce qui a été passé, mais...
Sur cette question du revenu, Éric Martineau, les députés et la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, ont regretté qu'elle ait été traitée dans la précipitation et en dernière minute. Projet de loi d'urgence tel qu'il a été voté n'apportera donc pas de solution satisfaisante sur ce point ?
Non. Alors ça, je suis pas d'accord avec ça. Si pour certains députés, travailler le vendredi ou le samedi leur pose problème, faut faire autre chose. Franchement, moi j'étais agriculteur, on s'en fiche de savoir si on est vendredi ou samedi. Alors ce qui se passe, c'est que les tunnels de prix, oui, n'étaient pas dans les premiers articles de la loi et certains ont critiqué le fait que ça a été vu le vendredi soir et le samedi. Bah écoutez, moi de toute façon, mon agenda, j'avais mis qu'on bossait vendredi, samedi, dimanche. On a fini le samedi à 13h, il y a beaucoup de Français qui travaillent le week-end et donc moi ça me choquait pas qu'on puisse bosser, donc c'est un faux argument.
Simplement encore deux questions sur l'importation de produits et sur les produits distribués dans les cantines scolaires. Le gouvernement prévoyait d'interdire tout produit traité par des substances interdites au niveau européen. Les amendements de LFI ont descendu cette interdiction au niveau français. Ça cible directement l'acétamipride, selon vous, Éric Martineau ?
Non, pas uniquement, parce qu'il y a plein de produits, si vous me demandez, et ça c'était sur l'article 2, ils ont même voté plus fort que ça, parce que ce qui n'est pas produit, si vous me demandez là, si le texte n'était pas revu par les sénateurs très prochainement, en clair, vous pouvez plus avoir de café dans la machine à café demain, quoi. Donc, on peut interdire, de toute façon, au niveau français, on a quand même aussi des règles européennes. Moi, ce que je regrette, c'est que l'on puisse communiquer ou de faire croire aux gens qu'on a voté des choses qui seront applicables. Ça, c'est ce qu'on appelle de la démagogie, ou du populisme. Et je suis désolé, moi, je suis vraiment pas là-dedans. Moi, je suis plutôt dans le pragmatisme, c'est-à-dire, est-ce que c'est possible et applicable ? Non. Donc, là, ce qui a été voté sur cet article 2, on verra, mais de toute façon, c'est pas applicable.
Je vous remercie, Éric Martineau, député MoDem de la 3e circonscription de la Sarthe, au sein du groupe Les Démocrates à l'Assemblée. Merci beaucoup.
Merci, bonne journée, au revoir.
L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.